On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
Bonjour, je vous propose de redécouvrir une émission de 2019 autour d'un sujet épineux de notre alimentation qui avait suscité de très nombreuses réactions de votre part, la pêche éco-responsable. Des filets à l'assiette, on fait le tour de la question.
Je peux goûter comme ça ?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Une pêche durable est une pêche qui se réfère à trois grands piliers. Un pilier environnemental, un pilier économique et un pilier social.
La sole est posée sur la plancha sur un film cuisson, sur lequel je mets un filet d'huile d'olive. Et voilà, je vais commencer par le côté ventre. Le poisson n'aura pas été altéré par une sauce ou quoi, parce que la pêcheur fait qu'il a son goût authentique.
Un accord a enfin été passé entre le Parlement européen et les États membres pour interdire la pêche électrique.
Il est tout frais, mon poisson. Il frétille. Il est tout frais.
En direct, trois sols et deux sèches.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Dans un monde idéal, on aimerait manger, en quantité raisonnable, du poisson frais, 100% français, issu d'une pêche respectueuse des mers et des océans. Seulement voilà, devant l'étal du poissonnier, la pêche aux infos est bien souvent un casse-tête. On va essayer d'y voir plus clair avec notre invité du jour, Charles Guiriec. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez fondé en 2014 Poiscaille. Comment on pourrait définir cette enseigne en ligne poiscaille.fr ?
C'est la version marine du panier légumes.
C'est ça.
On se dit frais, durable, éthique.
Le circuit court de la mer en quelque sorte ?
Exactement, on achète direct aux pêcheurs.
Vous travaillez en direct avec une soixantaine de petits pêcheurs dans toute la France pour les cuisiniers professionnels mais aussi pour les particuliers.
Exactement.
Pour ceux qui nous écoutent, notre reporter Stéphane Combe est d'ailleurs allé prendre le pouls des filets français. Il est parti en mer avec un pêcheur du bassin d'Arcachon, pétri de conviction, amoureux de son métier avec lequel vous travaillez.
Olivier Argelas.
Voilà.
Magnifique.
On va avoir droit comme ça à un petit tour en mer fort des paysans. Et nous irons également déguster une surprenante recette à base de mulet noir chez François Delage, pêcheur amarré au port d'Andernos et chef de cuisine de la cabane du pêcheur. Une recette très alléchante dans les fauteuils des chroniqueurs. Elvira Masson et Dominique Hutin. Bonjour les amis historiques, ça va ?
Bonjour à tous.
La team historique.
Vous nous vieillissez.
Elvira.
Ouais. Moi je vous parle d'une passion française assez récente.
Oui.
Et peut-être pas si durable.
Ah, on va voir ça. Il s'agit d'un produit de la mer, ouais. Mais on garde le suspense jusqu'au bout. Dominique ?
Mais pour ma part, vin et poisson, dans les deux cas, je vais essayer de vous sensibiliser à la nécessité de rendre les labels transparents. Et je vais surtout lubrifier tout ça avec un vin blanc qui nous vient du pourtour méditerranéen. On va partir en Corse.
Il parade déjà
en Corse, en Grèce, pardon.
En Grèce, il parade déjà
sur une île, en tout cas.
Dans nos verres, sur une île, d'accord. Derrière la console, Camille Blanès avec Alexandre Chenet à la technique et Nadia Chougui à la préparation et l'animation de notre site internet. Franceinter.fr, à la page on va déguster, vous pouvez y retrouver nos infos pratiques, les recettes de nos invités, le podcast de l'émission. Juste avant de plonger dans le monde de la pêche durable, je vous propose un petit boui-boui à Paris.
France Inter, François-Régis Gaudry, les saveurs de l'été, on va déguster.
Je vous emmène dîner quelque part, Elvira ?
Où ça ?
C'est chinois ou chez moi ?
Ah bon, enfin plutôt chinois, je pense. Hein.
Ah non, chez moi, ok, bon. Je n'insiste pas.
Cette fois, non, on n'insistait pas, c'est pas la peine.
Eh bien, va pour une cantine chinoise. On file rue Condorcet. On est dans le quartier de la rue de Maubeuge, l'église Saint-Vincent-de-Paul.
9e.
Exactement, Paris 9e, vous connaissez bien. Et on tombe sur l'enseigne Les Délices de Condorcet. C'est un nom que vous devriez pas trop avoir difficulté à retenir.
Non, c'est plutôt simple, ouais.
Vous connaissez les
J'ai
délices de Condorcet?
J'ai entendu parler, non, c'est des raviolis.
Oui, exactement.
Paraît-il assez exceptionnel.
Oui, alors on est dans un joli boui-boui qui s'essaye un peu au décor moderne. Le patron s'appelle Xiao Zhang. Il est originaire du nord de la Chine. Et effectivement, vous avez raison, le grand savoir-faire de son adresse, ce sont les nouilles et les raviolis. Des nouilles et des raviolis, alors a priori, là, comme ça, ils sont de toutes les couleurs. Il y en a des jaunes, des verts, des roses. Vous vous dites, mais oulala, d'où sortent ces nouilles psychédéliques? Est-ce qu'ils ont été boostés au colorant de synthèse? Rassurez-vous, ces pâtes sont étalées, étirées, laminées de façon très artisanale par deux cuisinières qui les colorent avec des jus de légumes, jus de betterave, jus de carotte, jus d'épinard, rien que du naturel. Et on retrouve ces nouilles dans des bouillons de bœuf très profonds, un bouillon rafraîchi d'ailleurs par de la coriandre fraîche, par le gingembre. Ces nouilles ont une très belle consistance légèrement élastique sous la dent. Et les raviolis, oh là là, c'est des petites bourses remplies de farce délicieuses. Et je vous conseille d'ailleurs celles que les Chinois préfèrent et qui sont déjà les best-sellers de cette adresse, les délices de Condorcet. Porc, ciboulette, œufs et crevettes. Mmh. Ouf, j'ai dit un gros mot, non? Parce qu'on va voir que consommer de la crevette éco-responsable, c'est pas facile, Charles Guerriec.
C'est un vrai boulot, ouais. Difficile à sourcer parce que beaucoup d'importations, donc des choses pas forcément très claires, des impacts sur les milieux assez incertains, voire beaucoup de rejets. La pêche crevettière au niveau mondial, c'est assez décrié en termes de rejets.
Ouais.
Bon, l'idéal, c'est d'acheter du bouquet, ce fameux bouquet français, breton idéalement, à ne pas confondre avec les grosses gambas qu'on mélange souvent avec un bouquet. On parle souvent de bouquet de crevettes, ça veut rien dire pour moi.
Et c'est ça, et c'est vrai que c'est les tristes, la plupart des crevettes que l'on voit sur les étals, ça vient bien souvent de l'autre bout du monde, c'est des élevages très intensifs au Vietnam, en Thaïlande, enfin c'est pas très très beau à voir. Donc il y a l'option aussi pour ces raviolis, il y a l'option porc et choux, et il y a l'option végétarienne courgette, concombre et œufs, si ça vous va. La texture de la pâte est vraiment parfaite entre le ferme et le fondant, et ses farces sont très parfumées, juteuses, on sent bien le gras du cochon, vous allez voir Elvira, c'est assez réjouissant.
Je me régale.
On se paye les délices de Condorcet pour une quinzaine d'euros par personne. Et on est à deux pas de la gare du Nord, c'est 10 rue Condorcet, Paris 9e. Consommer du poisson éco-responsable, c'est l'enjeu auquel on s'intéresse aujourd'hui dans l'émission, juste après un petit tour dans les salines.
Il dit je ne parle pas et mon cœur brûle. Je voudrais traverser ce pays. Mes yeux sont pleins de guerre, ma bouche est sèche. Je n'ai pas d'amis. Il dit je viens de la mine dans la ville. Je cherche le pardon et l'oubli. J'ai ma Bible sur la poitrine. Je marche vers les salines. Il dit personne ne m'a vu. Il dit que les prières nous sauvent, mais qu'il ne se met plus à genoux. Ceux qui m'ont mis au monde ne sont plus en vie. Il dit personne sur terre ne me connaît. Je ne parle pas et j'ai tout donné. Le monde est plein de ronces et ce que je cherchais, je ne l'ai jamais trouvé. Il dit je ne parle pas et mon cœur brûle. Et j'ai déchiré mon cahier. J'étais mort au milieu du béton. Aujourd'hui, je ne rencontre qu'aux étoiles dans le ciel et j'implore le pardon. Il dit, je n'atteindrai pas le paradis. Mais Dieu sait que j'aurais essayé. Le monde est plein de ronces et ce que je cherchais.
Les Salines, chanson poignante, extraite de En amont, l'album posthume d'Alain Bachung. Les Salines, transition toute faite vers une émission marine où l'on s'intéresse à notre consommation de poissons avec Charles Guerriec. Nous nous sommes rencontrés, Charles, au dernier salon de l'agriculture à Paris, en mars dernier, autour d'un produit que vous aimez, que j'aime, qu'Elvira aime beaucoup, ça je le sais, et que notre ami Dominique Hutin, pour des, notamment des raisons géographiques, aime. Je veux parler de... Allez, Dominique, vous avez trouvé ?
Du tout, c'est un produit de la mer peut-être ?
Oui, vous êtes tombé dans la bonne émission. Le bulot !
Formidable.
Mais pas n'importe quel bulot.
Le bulot de chez vous,
bah, le bulot de la baie de Granville.
Ah voilà, quand même.
Avec son IGP récente qu'il faut encourager.
Obtenu
tout récemment.
En février, ouais. Alors IGP, indication géographique protégée, visiblement, c'est un produit qui a tout bon.
Il a tout bon, la pêche se fait au casier, donc technique douce. C'est un détritivore, donc en fait, bah, il va aller au fond de la mer manger ce qui est mort au fond, les poissons, les crabes et tout ça. Donc il recycle tout ce qu'il peut y avoir de bon au fond. Et en plus, le stock est en excellent état. Les prix même augmentent un petit peu pour les pêcheurs, ce qui est plutôt un bon signe, ce qui va les inciter à capturer.
Sachant qu'au départ, on reste sur un coquillage vraiment très bon marché.
C'est moins de 6 euros le kilo vivant.
Vous êtes fondateur, Charles Guerriec, de poiscaille.fr. C'est une enseigne en ligne où on peut s'approvisionner, professionnel comme amateur, particulier, en poisson, en direct de petits pêcheurs, extra frais, 100% français, issu d'une pêche éco-responsable. On va le voir tout au long de cette émission. Et de façon générale, vous encouragez nos auditeurs à consommer des coquillages.
Bah oui, parce que c'est une belle alternative. C'est pas très cher. Ça mange du zooplancton, donc pas de problème de chaîne alimentaire, de manger les top prédateurs, comme nous disent les scientifiques. Et la production est plutôt bonne. Attention à bien manger des coquillages français ou locaux.
Vous allez vous livrer car vous êtes aussi un véritable épicurien. Vous aimez les produits de la mer. C'est peut-être bien d'ailleurs le goût des produits de la mer et du poisson qui vous ont emmené vers ce métier. Un drôle de bricolage culinaire. Une expérience absolument invraisemblable. Vous m'avez demandé au téléphone, est-ce que vous pourriez me fournir une bouilloire électrique? La classique bouilloire que tout le monde a à la maison et qui permet de se faire chauffer de l'eau pour du thé ou des tisanes. Et ben vous détournez cet usage, que faites-vous? Ouh là là, c'est en train de bouillir.
Exactement, bah là, en fait, j'ai mes coques là que je sors d'un petit sac en plastique, ouais. Dans un plat. Je les pose, j'en pose une petite vingtaine comme ça. J'ai la bouilloire qui arrive à 100 degrés.
Alors attendez, elle est pleine d'eau?
Elle est pleine d'eau, ça chauffe, ça a cliqué,
ouais.
Comme quand on la laisse bouillir jusqu'au bout. Et en fait, je verse ça sur mes coques.
Vous versez l'eau chaude, donc à 100 degrés, hein, puisqu'elle vient de bouillir.
Exactement, sur les coques. Et là, hop, qu'est-ce qui se passe? Ça pop. En fait, les coques sont en train de s'ouvrir toutes seules.
Regardez-moi ça.
Et je les sors direct.
Vous les sortez immédiatement dès qu'elles s'ouvrent?
Ah, idéalement, c'est un peu brûle-doigt, donc faut pas mettre trop d'eau.
Ouais.
Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'en fait, la coque, elle reste bombée.
Incroyable.
Donc toute l'eau qu'il y a dans la coque, elle reste. Et là, on a un goût qui est cruit, moi j'appelle ça. Moitié cru, moitié cuit.
Cruit, pas mal.
Et j'adore, je trouve que c'est la meilleure manière. Vous pouvez même mettre de la bière ou même du vin si vous voulez.
Et du cidre.
Alors, est-ce
du cidre, pourquoi pas?
Est-ce que Elvira peut se frotter à la sensation cruite?
J'adore le cruit. Non mais c'est incroyablement iodé, quoi. Mais encore l'eau de mer.
Et expérience absolument étonnante. Et j'en ai une là que je suis en train de gober.
Ça marche hyper bien aussi avec les pousse-pieds. Oh. Ça marche hyper bien avec les moules. Les palourdes, souvent, il faut leur mettre un petit coup de plus parce qu'elles sont assez coriaces.
Magnifique.
Ça marche même avec
ça
un poisson.
Ça n'a besoin de rien de plus.
Et expérience incroyable. Et là, on a vraiment le coquillage dans toute sa juteosité. Son plus simple appareil, c'est absolument formidable. Je vous propose de vous mettre carrément dans le bain de la pêche française avec notre reporter Stéphane Combe qui a, figurez-vous, embarqué à bord d'un bateau nommé Ex Nihilo. C'est le petit navire d'Olivier Argelas, pêcheur dans le bassin d'Arcachon avec lequel travaille Charles Guerriec. C'est d'ailleurs vous qui nous avez mis sur la voie de ce profil de pêcheur. Imaginez la carte postale. Au petit matin, ciel bleu, mer calme, panorama invraisemblable et belle partie de pêche en perspective.
Écoute, là c'est le lever du soleil sur la dune du Pilat. Il fait beau temps, on a un joli petit vent d'est qui est très agréable ma foi. La mer est calme donc c'est quand même très très agréable aujourd'hui. Ouais, donc là on est sur mon bateau qui s'appelle Ex Nihilo, un bateau assez récent mais petit. Un bateau de 10 mètres qui fait 10 mètres de long par 4 mètres de large. Et là, on avait mon équipage, donc petit équipage, pareil, à la mesure du bateau. Donc, on est juste 3 personnes et on peut travailler même qu'à 2 si on a envie.
Olivier, ce qu'il faut préciser, c'est que le filet que vous remontez, en fait, ce n'est pas un chalut. Hein. Vous ne le tirez pas, c'est un filet que vous laissez dans la mer pendant 24 heures.
Voilà, c'est bien ça. Donc, alors, c'est pour ça que le bateau, on n'appelle pas ça un chalutier, mais un filayeur. Et une nuance, finalement. C'est un métier différent de celui du chalutier. Et du coup, c'est pas pour rien qu'on appelle ces genres de métiers, aussi bien de la meçon d'ailleurs que du filet, on appelle ça les arts dormants, comme s'ils dormaient en fait. Au contraire, des arts traînants, dont le chalutier fait partie. Voilà. Il y en a un qui traîne, donc finalement c'est le filet qui va au poisson, et là c'est le contraire. Là, le filet reste au fond, et donc c'est le poisson qui va au filet. Voilà.
Donc, à l'avant, il y a...
À l'avant, il y a Bruno, là, qui est au niveau du vire-filet. C'est un toit hydraulique, là, qui nous permet d'automatiquement remonter les filets à bord. Et après, le filet, il va dans une caisse qui est sur l'arrière du bateau, où il y a Johan, un autre de mes matelots, qui, lui, il prend le filet, il tire dessus. Le filet passe par une espèce de bobine sur roulement, et comme ça, ça lui permet de ranger les filets plus efficacement dans un grand compartiment, en fait.
Olivier, vous vous inscrivez dans une forme de pêche durable, responsable. En quoi la taille du bateau intervient dans cette démarche?
Il y a deux paramètres qui rentrent en ligne de compte. C'est qu'un petit bateau, souvent, a une capacité d'emport de matériel assez réduite. Donc, petit bateau, petite longueur de filet. Et deuxièmement, c'est qu'un petit bateau, en général, est plus soumis aux aléas du temps. Ça veut dire que dès qu'il y a un peu de mauvais temps, on rentre à la maison et on y reste. Et on ressort quand le temps le permet. Donc effectivement, sur une année, si on travaille 200 jours, c'est tout ce qu'on travaille. Donc de ce point de vue-là, notre effort de pêche, il est réduit en fait. À côté de ça, vous avez des bateaux de 15 mètres et plus, qui eux, ils peuvent faire 300 jours dans l'année s'ils veulent. Et du coup, l'effort de pêche, il est constant, omniprésent, du 1er janvier au 31 décembre, et avec des longueurs de filet qui sont souvent 5, 6 fois, voire 10 fois les longueurs que nous travaillons.
Olivier, sur votre bateau de pêche, en fin de compte... Juste à l'avant, sur la droite, vous avez une espèce de treuil, de poulie. Qu'est-ce que cette poulie est en train de tracter? C'est le filet. Hein.
Voilà, c'est ça. Cette poulie-là, on appelle ça un vire-filet. Il saisit le filet, qu'il en serre, en fait, et il le remonte.
C'est quoi ce poisson qui est pris dans le filet?
Bon, là, c'est une roussette. C'est un petit requin. Donc là, c'est pas terrible. Après, juste après, on peut voir, là, il y a une sole. Donc là, c'est bien, parce que là, c'est un poisson noble. Hop! Tiens bon, Bruno. Là, qui est une sole, donc là, c'est un poisson noble, celui qui est recherché, qui est ciblé. Et d'ailleurs, qui a une très très bonne valeur marchande, aussi bien en crié qu'en vente directe. Et c'est un petit peu notre espèce cible.
Voilà. J'ai vu, là, il y a même...
Par exemple, on a une araignée.
Voilà, ouais. Une belle araignée.
Une belle araignée, là, une belle femelle, bon, qui a fait son trou, naturellement, parce que c'est vrai qu'elle épargne rarement les filets, ces bestioles-là. Allez, c'est fait, maintenant.
Dans le bac.
Ouais, donc c'est des filets assez sélectifs, quand même, parce que le maillage est assez grand. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que c'est des tramailles, là. Il faut imaginer qu'il y a trois maillages. Il y en a un maillage central, le plus petit, qui fait environ 100 mm d'ouverture. Et donc, ça veut dire que ça laisse passer quand même beaucoup, beaucoup de poissons, qui est en plus très, très souple. Et après, il y a deux maillages, mais beaucoup plus grands sur les côtés. Et ça permet à des poissons plus grands de rentrer, de faire des poches. Donc, ça veut dire qu'on peut prendre les grands et après d'autres qui sont un peu plus petits. Par exemple, là, il est particulièrement rare de trapper une sole qui fait moins de 30 cm. Sachant que la sole, sa taille mini autorisée par l'Europe, c'est 26. Ça veut dire que c'est très très sélectif. Là, comme on peut voir, les petits poissons, il n'y en a pas.
Là, Olivier, avec le bateau, on s'est positionné. On est quoi? On est juste en face de la plage.
C'est ça, ouais. Là, on est très proche de la plage. On est environ à 500 mètres au large de la plage. On a des filets qui sont perpendiculaires à celle-ci, là, ce qu'on appelle nous les filets droits. Des filets très très hauts, là, ils sont flottants. Donc, on peut voir à la surface de l'eau. Ce qu'on appelle les lièges, donc c'est une espèce de petits flotteurs.
Des petits flotteurs jaunes.
Flotteurs qui permet au filet de se trouver à la surface. Et l'idée, c'est d'attraper des poissons de type pélagique, c'est-à-dire des poissons qui restent à nager dans la colonne d'eau et pas comme les sols qui sont au fond. Mais là, il n'y en a pas. Ils n'ont pas migré aujourd'hui. Si le pêcheur il savait tout, il aurait tout le temps du poisson, mais c'est pas comme ça que ça se passe, malheureusement. Donc on se met là, et puis c'est un travail de patience. On attend, on les retravaille tous les jours. Et il y a un maigre qui arrive là. Un maigre, un joli maigre qui doit faire au moins 3-4 kilos.
Oula.
Bruno a failli se faire assommer d'ailleurs.
Nous étions en mer avec Olivier Argelas, pêcheur avec un petit bateau dans le bassin d'Arcachon. Charles Guériec, petit bateau, pêche artisanale, pêche côtière, c'est des expressions que les chefs cuisiniers utilisent beaucoup, souvent pour garantir d'ailleurs la fraîcheur et la qualité de leurs poissons. Seulement voilà, petit bateau, nous en avons discuté en préparant cette émission, vous me dites que ça ne correspond pas en fait à une définition très précise et que petit bateau en fait c'est une expression un peu à géométrie variable.
Exactement, on le voit aussi sur les étals souvent, on parle de extra aussi souvent, c'est associé. En fait le petit bateau c'est la pêche fraîche du jour, donc c'est la plus récente. Opposé à la pêche hauturière ou une pêche qui peut avoir plusieurs jours. Et en fait, ça veut rien dire sur la taille du bateau.
Mais ça ne donne pas un indice sur l'éco-responsabilité de la pêche que ce petit bateau pratique. On se dit a priori qu'un petit bateau, d'abord, faut s'entendre sur la taille, mais qu'a priori, évidemment, c'est moins impactant sur l'environnement qu'un grand chalutier.
Bah, ça peut être un bateau qui rentre dans le volume de ce studio ou un bateau qui fait 10 fois cette taille-là.
Oui.
Et donc, il y a un chalutier qui a fait une journée en mer où il a attrapé 2 tonnes de poissons, mais il y a une partie qui est fraîche. Par contre, bah, les pêches des jours d'avant, parce qu'il est sorti plusieurs jours en mer, sont pas classés en petits bateaux. Donc c'est surtout une indication de qualité qu'on a détourné un peu par habitude sur des petites tailles de navires.
On peut quand même parler là de petits bateaux dans le cas d'Olivier Argelat, ce 10 mètres. Là, c'est
Nous, notre critère chez Voiscaille, c'est 12 mètres maximum.
Au-delà de 12 mètres, ça devient compliqué.
On considère que c'est des bateaux qui peuvent sortir plusieurs jours en mer.
Ah.
Et on est clairement gêné. Donc, quand on parle de durabilité chez Voiscaille, c'est pas de chalut, pas de drague, donc que des techniques douces, pas plus de 12 mètres, 3 marins à bord maximum, sortis à la journée.
C'est ça.
Donc voilà, nous, et c'est une définition qu'on utilise dans les règlements européens, dans pas mal de réglementations nationales aussi. C'est pour ça que nous, chez Voiscaille, on est parti sur objectivité, quoi. C'est, quand on vous dit frais, c'est 48 heures entre la pêche à bord du bateau et l'arrivée au consommateur. Éthique, c'est 20% de plus que le prix du marché.
On vous a entendu prononcer l'expression de technique de pêche douce ou parfois sélective. C'est ce que disait Olivier Argelat dans Le Son. Olivier Argelat parle également de filet droit ou de filet dormant. S'il fallait expliquer en quelques mots simples pour ceux qui nous écoutent, la technique de pêche douce, ça s'oppose à quoi et qu'est-ce qu'on entend par la douceur dans la technique de la pêche?
Les techniques douces, c'est aussi appelé art dormant. Donc c'est tous les engins qu'on pose dans l'eau et qu'on va relever plus tard. On va attendre quelques minutes, quelques heures, opposé aux arts traînants, qui sont des filets qu'on va prendre et qu'on va emmener et tirer derrière le bateau. Souvent avec des gros poids, des gros lestes,
des chaluts.
Impacts sur le fond, les chaluts, les dragues.
Mmh.
Et donc avec des impacts sur le fond qui sont assez importants.
Surtout les chaluts, ces fameux chaluts dont on a beaucoup parlé, gigantesques, qui raclent les fonds marins et qui détruisent les écosystèmes avec des gros boudins, des gros bourrelets.
Exactement. Et en fait, on a parlé beaucoup du chalut de grand fond. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas du chalut de fond, qui est dans des petits fonds, c'est-à-dire dans des petites profondeurs, et dont l'impact est extrêmement incertain. Et moi, quand je vois des vidéos sous-marines, il y a des pêcheurs qui mettent des GoPro dans leur filet, ben un chalut, c'est assez plus long, quoi. C'est chalut-charrue, pas si loin.
Mm-hmm.
Et surtout, une sélectivité extrêmement mauvaise, une consommation de carburant extrêmement élevée, et une dangerosité assez forte.
Les techniques de pêche douce, alors, c'est ces filets qu'on dépose, donc les dormants, et qu'on vient relever 24 heures après.
Enfin, filet droit, filet trémaille, casier, pêche à pied,
oui.
Ligne et palangre.
C'est ça.
Et pêche en plongée. Alors là, c'est une exception un peu sur la coquille Saint-Jacques, l'ormeau, l'oursin,
mm-hmm.
où là, carrément, bah, c'est actif. C'est-à-dire
oui.
que le pêcheur va pas dormir sous l'eau, mais par contre, bah, il prend coquille par coquille, alors qu'à un endroit, on pourrait passer une drague, et on emporte bah, les étoiles de mer, les oursins, les cailloux et tout ce qu'il y a autour.
Vous avez dit pêche de ligne, cela veut dire que quand on voit l'appellation poisson ligne, c'est à peu près une expression fiable pour s'orienter, orienter notre achat.
C'est un bon critère. Déjà,
ça veut dire quoi, poisson ligne?
Poisson ligne, c'est un poisson qui a été pêché avec un hameçon. Alors il y a différentes variantes. Est-ce qu'on traîne la ligne? Est-ce qu'on pose des hameçons qu'on vient relever? Bon, dans l'ensemble, la pêche à la ligne, elle est plus sélective. Elle permet de remettre à l'eau les petits poissons dont on n'a pas envie et elle a un impact zéro. Le seul impact, c'est les quelques pertes de ligne qu'on peut avoir par rapport à un filet droit qu'on peut perdre et qu'on peut laisser en pêche fantôme pendant très longtemps. Un chalut qui va abîmer les fonds.
Mmh.
Donc ligne, on a déjà fait un gros boulot si on choisit que la ligne.
C'est ça. Olivier Argelat ramassait, c'est le dernier poisson dont on entendait le nom dans le reportage, on l'a carrément oublié celui-là, et qu'est-ce qu'il vaut, et est-ce qu'il vaut la peine d'être cuisiné? Je pense que la réponse est oui, c'est le maigre.
Ah oui, c'est bien parce que le maigre fait son retour, il avait un peu disparu dans les années 70-80, là il revient bien,
uh-huh.
Et cousin du bar, une chair excellente, moi je trouve que cru, cuit, enfin c'est nickel.
Beaucoup moins cher que le bar.
Grand moins cher, c'est-à-dire quasiment la moitié.
Et là, on peut considérer que les stocks, en plus, sont préservés?
Évaluation limitée sur les stocks, donc en fait, on ne sait pas trop.
D'accord.
Donc, en général, un stock qui n'est pas évalué, c'est que c'est plutôt un bon signe, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop pêché, on n'a pas vu des effondrements dans les débarquements.
Oui.
Honnêtement, sur le maigre, on a peu d'infos, ce qu'on voit et ce que voient les pêcheurs. C'est qu'il y a eu un vrai retour depuis une dizaine d'années.
Et on se fie encore une fois à la technique de pêche. C'est-à-dire que si on privilégie en posant des questions une technique de pêche douce, là c'est quand même une bonne nouvelle.
Exactement, moi je préfère manger un maigre, on va dire, incertain sur l'état du stock pêché par Olivier et bien lui payer, que prendre un lieu noir dont le stock est labellisé et en fait pêché par un énorme chalutier sur lequel il y a des gens qui sont exploités.
Spontanément, une recette pour le maigre entier, vous allez me dire?
Basse température, juste
vidé. Basse
vider.
Température.
Ouais. Alors voilà, le problème du poisson, souvent, on le cuit beaucoup trop. On a une grosse peur de le rater, donc on fait n'importe quoi. Alors que c'est plus avec la viande qu'on fait n'importe quoi, de mon point de vue, en France. Mais... juste vidé, un petit branche de romarin dans le ventre, des parfours froids, 80 degrés, 100 degrés, et pas de papillotes, rien, sur la grille.
Pas de matière grasse.
Idéalement, sur le papier que vous a donné Poiscaille pour l'emballer, ça, ça serait parfait. Et vous le laissez, moi je dis aux gens, 1 kilo, 1 heure. En gros, pour les gens qui ont des enfants ou les gens qui viennent prendre l'apéro, le temps d'une bouteille de vin à l'apéro, ou le temps de donner le bain à ses enfants, c'est pas grave si vous l'oubliez 10 minutes, un quart d'heure. Les écailles vont croûter, ça fait comme une croûte de sel, sans avoir à s'embêter à faire la croûte, le sel et tout. Et après, on le dépiote, on enlève la peau, et surtout, on mange tout. C'est-à-dire qu'on va enlever après l'arête, et on va tout prélever.
Oui.
Et une super rentabilité par rapport aux pertes énormes qu'on a sur les poissons.
Quand
on les
met en filet. Il n'y a rien.
Il y a rien, on la met après si on veut.
Matière grasse avec le maigre, logique.
Mais on met un filet d'huile d'olive à cru.
Voilà, un peu d'huile d'olive une
et
fois
ça, que ça
c'est
dans. Et ça, ça se prête au bar, au.
À tous les poissons.
C'est ça.
Pour moi, c'est la meilleure manière de faire un poisson sans le rater et d'en avoir le goût authentique.
Départ trop froid, 80 degrés, une heure.
Une heure, voilà. Et l'œil va devenir blanc, on peut planter un couteau dedans, comme dans une pomme de terre, au niveau de la tête. Bah, si ça rentre, c'est bon. Si c'est un peu dur, ce sera un peu cru au milieu. Et là, on sera parfait pour moi. Mais ça, c'est une histoire de goût. Et 10 minutes de plus, et c'est pas grave.
Et en attendant la fin de la cuisson, on boit un verre de vin avec Dominique Hutin.
On va déguster. Sur France Inter.
Dominique Hutin qui a rempli nos verres.
Oui, il n'y a plus qu'à compléter l'ordonnance de Charles. Alors pas avec un hameçon, mais peut-être un petit bouchon pour partir à l'abordage de l'étal du poissonnier. Je vous propose qu'on aille jeter l'ancre dans le pourtour méditerranéen, donc en Grèce, sur l'île de Tinos.
Oui.
Ça s'appelle le domaine de Kalatas et la cuvée, c'est Sainte Obédience 2016.
Oui, Sainte Obédience 2016.
Oui, c'est du français parce que le vigneron est français. Et oui, cette couleur qui danse très, très, très ambrée.
Moi,
ça
je
reste
dis Sainte Obéissance.
Ah oui, ben c'est bien, c'est pour voir si vous suivez.
Oui.
Bravo. Les cépages sont locaux, accrochez-vous, c'est Aspro Potamici, 80%, et c'est complété par du Rosaki, qui est
aspro,
un raisin de table.
C'est bien si j'ai un mal de crâne, c'est ça?
Oui, voilà, l'Aspro, parfait. Bien joué, Elvira. Alors, ce sont des vignes centenaires, qui ne sont même pas greffées, n'ont jamais été greffées. On est sur un terroir de sable qui résiste au phylloséra, donc on peut se permettre ce genre de coquetterie. Évidemment, alors bon, c'est un vin qui a été bio-certifié, c'est contrôlé, il n'y a pas d'intrants œnologiques. Voilà, c'est vraiment un style très, très, très direct. Alors, évidemment, si je vous parle de vin blanc qui s'accorde bien avec le poisson, ça ne va pas être un grand pas pour l'humanité et la culture gastronomique. Alors on peut peut-être si quand même dire pourquoi, simplement parce que le poisson contient des protéines qui s'accommodent assez mal des tanins du vin rouge. Voilà la raison pour laquelle tout ça est plus fluide. Mais je suis prêt à tenter un autre pari avec un vin rouge. Celui-ci nous vient de Toscane.
Mm-hmm.
Il est rouge-rouge, hein, c'est fait avec du Cabernet Sauvignon, le même cépage qu'à Bordeaux. C'est le domaine Fuorimondo, en Toscane. Et on est juste là pour situer un peu les choses, sur la côte face à l'île d'Elbe. Voilà, c'est aussi produit en culture biodynamique, là encore certifié, là encore contrôlé. Et la question qui se pose, c'est pourquoi ce vin? Certainement pour une raison assez simple, parce qu'il est emblématique. D'abord, le vigneron, il est belge, celui-ci. Il s'appelle Olivier-Pierre Morandini et il milite pour la transparence dans le vin en général, et le bio en particulier, avec une association qui s'appelle TOA. Vous êtes prête, Elvira? On va parler anglais.
Écoute.
Ça va piquer un peu.
TOA.
TOA, c'est Transparency for Organic Wine Association.
All right.
C'est bien dit? Voilà. Alors, il ne faut pas s'y tromper qu'un vigneron bio milite pour la transparence dans le vin et le vin bio spécialement. Ça ne signifie pas qu'il réclame plus de radicalité. Il réclame simplement plus de transparence. Et pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a une petite coquetterie dans l'univers du vin, c'est que le vin n'est pas classé comme un produit alimentaire. Et donc, à ce titre-là, ça le dispense des étiquettes que vous voyez sur tous les produits alimentaires que vous achetez au jour le jour, le quotidien, les matières grasses, les ingrédients, etc., etc. Là, on a vraiment une exception culturelle européenne avec le vin. Donc, pas d'affichage. La deuxième chose, c'est que le professeur Sicolella, qui fait partie de la même association TOA, a mis à jour, avec des analyses, a mis à jour des traces de molécules ayant des impacts CMR. Alors le C de CMR, c'est cancérigène.
Ah.
Voyez. Et en même temps, des possibilités de perturbateurs endocriniens. Donc, on a quand même.
Endocriniens peut-être.
Oui, c'est rectifié au fur et à mesure. Et c'est plus joli que ça parce que en plus, il y a une possibilité d'effet cocktail. Et puis enfin, le bio a multiplié par 4 le marché. Donc évidemment, ça a ouvert des appétits assez formidables chez les lobbies agroalimentaires qui sont d'autant plus puissants qu'ils profitent du financement par la PAC. Donc il y a une vraie force d'impact chez ces gens-là. Et enfin, et c'est d'autant plus facile pour eux que les portes sont grandes ouvertes parce qu'il y a un cahier des charges bio européen qui est pour le moins très light, avec une possibilité d'avoir des intrants, des pratiques, pendant que les vignerons bio...
Une passoire, quoi.
Oui, c'est un peu une passoire, pendant que les vignerons bio français, dans leur grande majorité, mènent un travail extrêmement exigeant. Donc le risque est grand, au final, une fois qu'on fait la somme de toutes ces choses-là, de dépouiller le bio pour l'amener vers une espèce de bio au rabais, qui ne dirait pas de quoi il est fait, qui ne dirait pas vraiment son nom, et qui rendrait le vrai bio vertueux seulement accessible à ceux qui en ont les moyens. Voilà. Donc militons pour que les vins conventionnels disent enfin ce qu'ils ont dans le coffre. Et ce travail de ce vigneron et de cette association TOA, ça rentre tout à fait en résonance avec un autre travail mené, ça nous ramène au poisson, c'est le travail mené par l'association Bloom, là encore auprès du Parlement européen. Alors Bloom, peut-être que vous connaissez
une ONG,
Charles,
hein.
Voilà.
Oui, on les connaît bien, on les a rencontrés pas mal de fois.
Ils sont connus notamment pour leur travail autour de la pêche électrique, puisqu'ils viennent d'obtenir que la pêche électrique soit interdite à l'horizon 2021.
La pêche électrique, en un mot ?
C'est des chaluts sur lesquels on a rajouté des électrodes pour les rendre encore plus performants, avec une volonté de consommer moins de carburant. Cependant, avec une logique qui est plus pays du Nord, de dire on va faire des gros bateaux hyper efficaces, où on va mettre un gros bateau, une grosse usine en mer, une grosse usine à terre, et puis entre-temps, un port un peu mort, alors que nous, on a envie d'un modèle où il y a plein de petits pêcheurs qui attrapent tous un petit peu de poisson, un port vivant,
qu'apparemment des quotas de pêche. La pêche électrique, il s'agit bien d'électrocuter la faune marine.
Oui, c'est des petits courants. Alors, je pense
on
pas
envoie
que
des champs électriques pour déloger spécialement les poissons plats, la sole. Et évidemment, ça a conduit à la désertification des fonds marins et, comme l'a dit Charles, aussi des ports qui vont avec. Donc ça, c'est tout à fait catastrophique. On a des bateaux qui ont baissé pavillon. Et alors aujourd'hui, Bloom mène un autre combat, lui aussi placé sous les auspices de la transparence des labels. Et on va entendre Frédéric Lemana, qui est directeur scientifique de Bloom.
Le problème des labels de pêche durable, c'est qu'il y a un label qui est majoritaire, qui écrase la concurrence, qui s'appelle le label MSC. Donc vous pouvez le voir dans la grande distribution, quand vous prenez l'avion, quand vous allez au restaurant, quand vous allez faire vos courses. Ce label est vraiment partout, c'est un petit poisson bleu. Et le problème, c'est que c'est une entreprise privée, en fait, qui a créé la définition de la pêche durable pour elle. Et le problème, c'est que cette définition de la pêche durable ne correspond pas du tout à l'image que le citoyen s'en fait. Et donc, si on devait énumérer les pires méthodes de pêche au niveau mondial, celles qui détruisent les habitats marins, qui capturent d'innombrables espèces qui vont être rejetées mortes à la mer, qui ciblent des juvéniles qui n'ont pas eu le temps de se reproduire, ou des espèces qui sont à la base de la chaîne alimentaire, comme le krill par exemple, une toute petite crevette qui est à la base de la chaîne alimentaire dans l'Antarctique, on a toutes ces pêcheries-là destructrices, ultra-intensives, qui sont certifiées par le label MSC. Et donc, on a un accaparement d'un terme que tout le monde veut. Tout le monde veut du durable, de l'équitable, du responsable. Mais on certifie les pires méthodes de pêche actuelles.
Frédéric Lemanac au micro de Dominique, directeur scientifique de Bloom. On peut dire qu'il n'est pas tendre avec ce label MSC. C'est vrai qu'on le voit un peu partout, sur beaucoup d'emballages. Marine Stewardship Council, absolument.
C'est difficile l'anglais.
Qu'est-ce qu'il faut en penser? Vous êtes aussi...
Je suis d'accord avec eux. En fait, c'est pour moi, c'est ce qu'on appelle l'équivalent agriculture. Ce serait le fameux bio-industriel. C'est-à-dire, oui, on est rassuré. Puis en fait, derrière, il se passe des choses qui sont pas du tout en accord avec ce qu'on pense acheter.
Mais ils cautionnent vraiment des techniques de pêche intensives?
Des techniques de pêche intensive, des conditions de travail des marins qui sont pas du tout ok, avec des gens qui sont payés au forfait, avec des temps en mer hyper longs, et surtout des impacts sur les fonds énormes, avec en plus des bateaux qui peuvent être certifiés pour une pêcherie, mais qui sur une autre vont faire n'importe quoi.
Oui.
Mais en fait, il faut juste aller voir son poissonnier, lui demander, et quand c'est pas clair et qu'on a arrêté saumon, cabillaud, crevette, eh ben, manger ces espèces qui sont pas connues et pas se dire, ok, j'ai acheté un truc labellisé, tout va bien, dans le meilleur des mondes.
Saumon, cabillaud, crevette, on arrête.
Énormément importé.
Ouais.
Derrière des méthodes de production, ça vient de loin. Et surtout, au lieu de manger du saumon nourri avec du chinchard qui est pêché normalement juste pour faire de la farine à saumon, ce qui est quand même assez hallucinant, on pourrait juste manger des chinchards. Nous, on le met à la poubelle à farine, on va dire. Et c'est l'Hollandais qui les pêche. Et pendant ce temps, les Japonais, ils le cherchent comme un mets de luxe. Est-ce qu'on pourrait pas juste manger du chinchard d'abord, au lieu d'aller prendre le saumon sur l'étal? Alors oui, le saumon, c'est facile, c'est ce qu'on connaît. Donc si vous arrêtez le saumon, si vous arrêtez le cabillaud, et si vous arrêtez les grosses gambas, vous avez déjà du bon boulot.
On va revenir sur le choix des poissons, Dominique.
Oui, simplement pour compléter ce menu, vous allez sur notre site France Inter, on va déguster. Vous avez trouvé le lien vers cette association TOA pour la transparence autour des vins. Vous avez trouvé aussi une petite bibliothèque idéale avec 5 livres, pas moins, qui traitent des vins bio, naturels, etc. Et enfin, un dossier spécial, vin naturel, sur le site Ataboula, qui exceptionnellement met la consultation en accès libre pour les auditeurs de France Inter. On va déguster.
Beaucoup de questions de nos auditeurs, justement, sur la pêche éco-responsable. On va évoquer toutes ces questions et également quelques recettes que Charles Guerrier est en train de composer. C'est tout de suite après Anderson .Paak et Smokey Robinson, Make It Better. How do you mend when your world's apart?
both again, telling each other we're the one. We would make love at the drop of a hat. Remember that?
Yeah.
I remember you and me, close as any two can be. Now we're strangers in the night, awkward in the tight. Oh, baby, do you wanna make it better? Do you wanna stay together? Hey, if you do, then let's please make some new memories. When you take somebody for your own, it can't survive on history. The hotel motel, though we got a room at home, go to a place that we don't know so well. It'd be nice, add a little spice, try some new seduction, show each other how, give each other new instructions on what makes us feel good now. I just wanna make you feel good now.
Feel good, don't it? Come on.
Do you wanna make it better?
Wanna make it right? Come on.
Do you wanna stay together?
I meant when I said it.
And it's easier to run away than to look for what would make you stay.
Sur France Inter, on va déguster ce mets à l'heure d'été.
Vous êtes bien avec nous dans l'émission On va déguster, consacrée aujourd'hui à la pêche éco-responsable. Plein de questions de nos auditeurs. À Charles Guiriec, fondateur de Poiscaille.fr, une enseigne où l'on peut se fournir en poissons d'excellente qualité, en direct. Vous travaillez avec une soixantaine de pêcheurs exclusivement français, évidemment. Poissons sauvages, bien sûr.
Et des poissons nobles, mais aussi des modestes, parce qu'on veut valoriser toutes les espèces.
C'est ça
qui fait partie du jeu, et on peut pas ne manger que des soles, des barres et des turbos. Il faut aussi manger les chinchards, les tacos et les maquereaux.
Comment ça fonctionne, le mode d'emploi en un mot de Poiscaille? C'est des paniers?
Vous allez sur poiscaille.fr, vous dites je veux manger toutes les semaines, tous les 15 jours ou tous les mois. On vous donne rendez-vous dans un point relais à côté de chez vous, où vous pouvez vous faire livrer à domicile également, donc c'est partout en France. Et puis la veille de votre casier de la mer, donc on appelle ça un casier de la mer, vous recevez un petit email à 17h et on vous dit, voilà, vous pouvez choisir entre 5 et 15 combinaisons. On va vous dire si le poisson est entier, s'il est vidé, s'il est enfilé. Les coquillages sont vivants à chaque fois, les crustacés aussi. Et puis, en fonction de la pêche des dernières 48 heures, avec nos critères de durabilité, en payant bien les pêcheurs, bah vous allez prendre le casier qui vous fait le plus plaisir.
Formidable.
Premier arrivé, premier servi, donc faut pas traîner.
Et c'est une enseigne qui a déjà beaucoup de succès.
1500 abonnés, le cap est passé récemment.
Waouh.
L'objectif 50 000 abonnés, et là on pourra toucher quasiment toute la petite pêche française.
C'est magnifique.
Et là, on espère changer les choses en payant les pêcheurs plus cher, leur permettre de pêcher moins. Ça, c'est vraiment l'objectif de Poiscaille. Vendre du poisson, c'est pas si intéressant que ça. Par contre, changer les pratiques des pêcheurs avec nos sous, je pense que c'est plus intéressant.
Très bien, poiscaille.fr. Beaucoup de réactions d'auditeurs et d'auditrices, ouais. Elvira.
Et beaucoup de questions, notamment, qui tournent autour du choix du poisson chez le poissonnier. C'est quoi les obligations légales qu'un poissonnier a en termes de dispatch de l'information?
Alors, nom de l'espèce français ou vernaculaire, comme on dit, et nom latin. Et surtout, ce qu'il faut regarder, c'est zone et encore plus technique de pêche.
C'est que le poissonnier doit pouvoir me dire...
Chalut, drague, ligne, filet... Et alors souvent, les zones sont un peu mélangées, ou c'est pas forcément très clair, les poissonniers ils s'y retrouvent pas, c'est pas simple de dresser un étal avec la zone machin et tout. Mais par contre, il va peut-être dire, ça vient de Bretagne, ça vient du Croisic.
Oui, mais ça m'avance à quoi de savoir que ça vient de Bretagne ?
C'est déjà un peu mieux, ouais, que ça vient d'un gros fournisseur norvégien.
C'est vrai.
Ou, attention à regarder, tiens, pour la pêche électrique, de faire gaffe quand il y a des étiquettes avec marqué NL. Les pastilles sanitaires avec marqué NL, ça veut dire poisson de Hollande. Et donc, déjà, on bannit ça.
Car ce qu'on n'a pas dit, c'est que la pêche électrique, elle va être interdite, mais jusqu'en 2020, elle est encore en vigueur.
Il y a encore
autorisée. 2021.
Elle va décroître jusqu'à disparaître.
Il y a encore du poisson sur le marché et il y a encore des risques qu'il y ait peut-être des licences exploratoires ou je ne sais pas quoi.
Un mot des poissons d'élevage. Est-ce que vous êtes opposé à l'idée qu'on s'oriente vers des poissons d'élevage ? Évidemment, il existe même des élevages bio.
Complètement. Ah, moi, je suis contre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une pêche qui s'appelle minotière. C'est des bateaux qui font environ 100, 150 mètres de long. Ils pêchent du chinchard, du lançon, du spra. Tous ces trucs qui sont à la base de la chaîne alimentaire. Donc, on trouve beaucoup moins d'oiseaux. Toute la chaîne alimentaire en dessous aussi doit être sacrément perturbée parce qu'elle a beaucoup moins à manger. Qu'est-ce qu'on en fait? On en fait de la farine à saumon, qui vont être nourris en Norvège. Et puis après, on ramène les saumons. Donc, ça fait 6000 kilomètres à peu près déjà. On concentre des polluants. Et derrière, en fait, on a des pêcheurs qui, à la côte, en Manche, disent, mais le chinchard, c'est à mettre à la poubelle, quoi. Alors qu'en fait, bah, il faudrait qu'on leur dise, mais non, le chinchard, tu vas pas être payé 6 centimes pour ton chinchard chez Poiscaille, nous, on paye le chinchard 6 euros. Et derrière, bah, le pêcheur va peut-être dire, tiens, si j'avais pêché un peu de chinchard, et puis j'irais peut-être pêcher un peu moins de sole, parce que le chinchard, c'est facile, il y en a plein. Alors que la sole, bah, tout le monde en veut, donc il y en a moins.
Je vous propose de retourner en cuisine, car vous savez que le plaisir, l'hédonisme alimentaire, fait partie évidemment de notre identité, l'identité dont on va déguster. On retourne en cuisine avec François Delage, pêcheur à Andernos-les-Bains, chef cuisinier de la cabane du pêcheur. Je dis chef, sa cabane, c'est une très belle bicoque, et je suis pas du tout péjoratif, une jolie bicoque de bord de mer, toute simple, où le poisson passe directement des filets à l'assiette. La preuve, avec cette recette de tartare de mulet.
Alors là, on a devant nous un mulet noir. Un mulet noir qui doit faire 1,2 kg, 1,3 kg.
Il est imposant, là. Il fait environ 60 cm de long. Hein.
C'est ça. C'est déjà un joli spécimen.
Donc là, vous lui enlevez toutes les écailles.
Donc là, je vais d'abord l'écailler de partout.
Alors ça, c'est un poisson qui a été pêché hier, hein.
Qui est tout à fait frais d'ailleurs, de toute façon vous le voyez à sa raideur, hein. Dans les premières heures après sa mort, il est vraiment dur comme du bois, et ça c'est un critère de fraîcheur incontestable. Là, ça y est, il est écaillé, maintenant on va le vider. Je viens piquer dans le nombril, et je remonte jusqu'à la base de la tête. Donc là j'ai tout ouvert le ventre, là, je vais tout prendre, et vous voyez, tout est venu d'un coup.
Là. Donc là, on passe côté cuisine maintenant.
C'est ça, donc maintenant je vais prendre un couteau à filet, donc un couteau à lame fine et souple, de préférable le plus tranchant possible. On met le poisson à plat.
Vous mettez le couteau à plat, hein, et vous,
c'est ça.
Vous découpez entre la chair et la peau.
Donc ouais. Là, vraiment, c'est de la chair brute.
De fines tranches.
Voilà, hein. Je fais des fines lamelles dans le sens de la longueur que je reprends après pour couper.
Ah oui, là maintenant vous faites des tout petits carrés,
ah hein, oui.
Des tout petits cubes.
Ouais, presque un peu moins d'un centimètre de côté. On passe d'un kilo deux à, on va dire, 500 grammes de chair, mais on a vraiment que de la chair.
Donc vous mettez les petits cubes.
Donc je réserve les petits cubes dans un cul de poule, un cul de poule étant un saladier. Hein. Donc je vais tailler de la ciboulette, pareil, je vais la hacher finement. Ensuite je vais prendre de la nette.
Je vais découper.
Ah, je la hache finement.
Et là aussi, mélangé au cube de poisson, ça ressemble un petit peu aux fenouilles.
Des roses.
Et vous les écrasez avec le plat du couteau.
Voilà, avec le plat de mon couteau à émincer. Donc maintenant, j'incorpore les échalotes ciselées finement. Là, je vais y incorporer de l'huile d'olive, l'équivalent de, on va dire, 2 cuillères à soupe. Alors, jus de citron, faut savoir une chose, c'est que le jus de citron, c'est primordial de le mettre. Par contre, si je devais cette préparation ne la manger que ce soir ou demain, il ne faut pas l'incorporer. Sinon, on va passer dans la cuisson du poisson à cause de l'acidité du citron. Donc c'est quelque chose qui est à mettre qu'en gros une heure maximum avant d'être mangé. Au-delà, après, on va retrouver du poisson qui va être blanc parce que cuit à l'acidité. Donc c'est quelque chose qui se met vraiment qu'en dernier.
Et puis, bah, vous mélangez.
Voilà, je mélange tout ce que j'ai préparé, tout ce que j'ai incorporé dans mon saladier. Et voilà, la préparation est prête. Elle n'a plus qu'à être dressée.
Oh, c'est divin. Le poisson est élastique, hein. Ça rebondit un peu même dans
la... Ah, mais le poisson est frais. Ça a une certaine croquance, une certaine fermeté. Pour un peu, si vous tombez sur un grain de baie rose, que je n'ai pas forcément bien écrasé, si vous l'avez sous la dent, ça rajoute un autre parfum qui prend le dessus à un moment différent. Ça peut très bien se faire avec du bar, avec de la dorade, avec du maigre. Charles, on le mange.
Bah oui, avec plaisir. Oui, moi, je sais pas.
Ça te plaît, Charles ?
Ouais, carrément, je fais la même.
Bon, je reprends. Hein.
Ah ouais, ça évolue vite. Ouais.
Moi, je me sers directement en saladier.
Vas-y. Bon. Ça le détend, en fait.
Non mais vous nous aviez pas dit ça. Vous étiez caché derrière le micro de Stéphane Combe. C'est vous en fait qui avez recommandé à notre reporter Stéphane Combe cette fabuleuse adresse qui fait très envie, la cabane du pêcheur. François Delage, et c'est pas un nom mensonger car c'est bien une cabane de pêcheur.
Exactement, c'est un des rares pêcheurs en France à faire lui-même la valorisation de son produit et la cuisine. Il fait ça sur le port ostréicole d'Andernos. Aller à la cabane du pêcheur, c'est le seul endroit je pense où on mange vraiment du poisson, du bassin, tout le temps. C'est sa pêche. C'est assez simple, il avait en entrée une salade de tentacules de sèche,
ouais.
Qui était super, faite comme avec les tentacules de poulpe, et c'était extraordinaire. Et c'est 15 € le plat de sol, par exemple, qu'on a
avec un produit vraiment vraiment extraordinaire. Et disons-le, répétons-le, il faut manger du mulet, ce très joli poisson, notamment à l'état cru, pour sa chair assez croquante, assez ferme, mais dans le bon sens du terme, parce que ça se finit toujours très bien en bouche avec le mulet. C'est-à-dire que c'est pas du tout mastiquant, mâchouillant, etc. Ça finit sur un fondant fabuleux.
Sous-estimé, 5 € sur le marché dans le Cotentin.
Mais il est fragile.
À Goncoutainville, par chez vous.
À Goncoutainville centre, oui.
Dominique,
c'est son gros problème au mulet, c'est que c'est une espèce modeste et mal aimée parce qu'en fait c'est juste fragile. C'est-à-dire que dans une chaîne logistique longue, c'est-à-dire plusieurs jours voire semaines en mer, plus un temps de transit, plus plusieurs jours sur un étal, ben en fait un mulet ça finit en bouillie. Un bar, c'est encore à peu près ferme et c'est acceptable si on met une bonne sauce dessus. Alors que, en fait, si on le ramène 48 heures, là, c'est génial. Nous, c'est ça notre principe, c'est de dire toutes les espèces sont bonnes dès lors qu'elles sont pêchées durablement, bien payées aux pêcheurs pour qu'ils en prennent soin et qu'on les ramène rapidement.
Du mulet, on passe à la vieille, hein, Dominique, qui est dans Saverine.
Oui, non, mais lever une vieille, c'est ça l'idée, non mais...
espèce emblématique du poisson grillé, là.
Alors, qui est par ailleurs très joli. Je crois que c'est un des plus beaux poissons qui soit. Très irisé. Une très
on
jolie
dirait un poisson tropical.
Oui, absolument.
Les Bretons l'appellent le mérou breton.
Comment vous l'avez préparé?
Alors, celle-là, elle vient du Guilherme.
Elle est crue, hein. C'est un tartare, là aussi.
Voilà, exactement. Donc, je l'ai levé ce matin. Je l'ai fait cru. Et donc, je l'ai fait un peu mariner au citron et avec un peu de vinaigre que j'avais pris dans mes pickles de rutabaga.
Il y a une note de anisée. De...
Oui, alors là, j'ai mis du fenouil démarré, donc c'est idéal si vous êtes en bord de mer d'aller en
cuire. Oh,
et sinon, avec de l'aneth, l'aneth et la vieille, ça marche très bien. Un petit peu d'échalote, et là, j'avais quelques amandes. Dans quelques îles, on le fait en soupe avec des recettes très particulières, mais en fait, qu'on voit jamais. Alors qu'en fait, c'est un poisson qui, quand il est ramené rapidement et qu'il a été pêché sans être abîmé, en fait, il est parfait.
De la vieille, on passe à la jeune.
On va déguster. Sur France Inter.
Ça vous plaît pas, Elvira Masson ?
Si, ça me plaît, je prends.
Une chronique tentaculaire ?
C'est un peu ça, mais la France a été tentaculée. Le poulpe est devenu une passion française. Longtemps, le céphalopode, il n'a pas vraiment été la tasse de thé des Français, mais plutôt celle de nos voisins.
Les Espagnols
adorent le poulpe, le fameux poulpe à la galicienne. Préparé à la plancha avec du piment et des pommes de terre. Les Portugais adorent le poulpe, la salada des polva avec des pickles, du vinaigre, du persil, de l'ail. Les Grecs aussi, on a tous ces images de poulpe qui sèchent au soleil sur des fils à linge dans les Cyclades. Voir des Japonais, beaucoup plus loin.
C'est vrai.
Les fameux takoyaki, spécialité d'Osaka, vous savez, ces boulettes de pâte frites contenant des morceaux de poulpe.
On les trouve même parfois sur les sushis.
Exactement. Que l'on cuit dans un moule en forme de boule, mais la flamme a fini par se déclarer chez nous. Et se transformer en passion dévorante.
C'est vrai.
Il y a même pas mal de bouquins qui sont consacrés à notre amour pour le poulpe. Dernier en date, Le poulpe, 10 façons de le préparer, signé Anne Thor aux éditions de L'Épure, a fait un tabac. L'an dernier, s'est tenue à Marseille la première édition de Marseille Octopus Worldwide, MOW, je sais pas comment on prononce, qui a abordé le poulpe, évidemment par son versant culinaire, mais aussi mythologique, scientifique, on parle de l'ultra-intelligence présupposée du poulpe, littéraire également. Pas un bistrot du plus classique, du plus bistronomique, du bistrot d'auteur sans sa recette de poulpe.
C'est vrai.
Mais il est
incroyable,
partout.
Une traînée de poudre.
autant on ne cuisine pas tant que ça à la maison, parce que je pense qu'on ne sait pas si bien que ça comment s'y prendre, mais dans le bistrot, c'est incroyable. On l'a vu servir en carpaccio avec des notes de mangue chez Gérald Passé de Optinis à Marseille. On l'a croisé, c'est un classique, du bistrot franco-tunisien La Mi-Chemin dans le 14e sous forme d'un fameux couscous de poulpe. Et j'en passe, l'octopus vulgaris, ou poulpe roc, ou poulpe de roche, est devenu également une star des réseaux sociaux avec sa très flatteuse double rangée de ventouse. Il faut dire qu'il est extrêmement photogénique. Moi, je l'aime grillé, cru, détaillé finement, croustillant, moelleux, avec du piment, du citron, du vinaigre. Il n'y a rien que je n'aime pas dans le poulpe. Je ne peux pas ne pas en commander quand j'en croise un sur une carte de restaurant. Et même quand il n'est pas très bien cuit, même quand il est dur à mâcher, je trouve tout de même un intérêt. Et je pensais que côté ressources, tout était à peu près sous contrôle. Sauf que c'est pas si simple. Là, je parle sous votre contrôle. Il est très compliqué d'évaluer les stocks, car les poulpes ont une fâcheuse tendance à mourir juste après s'être reproduits. Donc, pour contrer ce destin fatal, ils sont très prolifiques et voraces, ils grossissent très vite, de 1 à 2 kilos pour une sèche en un an, quand un bar met 6 à 8 ans pour atteindre cette taille. Ils vont très très vite. Difficile donc d'évaluer l'état des stocks. À en croire une appli, moi, que j'ai téléchargée, dont je me sers avant d'aller chez le poissonnier, l'appli Planète Océan, il faudrait éviter le poulpe du Maroc et de Mauritanie et privilégier celui qui vient de Méditerranée, du Sénégal, de Gambie et de Guinée-Bissau. Mais vous, vous dites qu'il faut également s'éloigner du poulpe du Sénégal, car il a été largement surpêché.
C'est ce que vous dites, Charles Gariec?
Oui, ben moi j'ai envie de manger surtout du poulpe de Méditerranée. Ben, et maintenant, évidemment, on en voit beaucoup en Bretagne. Celui-là, il a été pêché au Guilvinec, dans les casiers à Omar.
Vous nous en avez préparé.
Par Florian Violon. Mais donc, en fait, si vous le prenez pêché au pot et pas au chalut, bah déjà, vous pouvez y aller. C'est-à-dire que là, tout va bien. En plus, les prix augmentent un peu pour les pêcheurs, donc tant mieux. Le risque, c'est de le consommer. Certains pêcheurs disent arrêtez de le manger pendant l'été. Juillet, août, pendant qu'il se reproduit, pour le laisser pondre.
Mais là, on entend un petit peu que certains pêcheurs, même français, continueraient à pêcher l'été dans certains coins de France, qu'effectivement, on ne respecterait pas forcément cette période délicate de reproduction. Certains chefs commencent à s'éloigner du poulpe, après s'en être pris de passion. Je pense notamment au chef colombien Juan Arbalès, qui est à la tête de 6 adresses à Paris, dont la dernière en date est le Yaya du côté du marché Secrétan dans le 19e, il vient d'annoncer qu'il retirait le poulpe de tous ses restaurants. Ce qui est une mesure que l'on peut discuter, mais il n'a pas fait dans la dentelle. Vous parlez de la méthode exemplaire qui est celle du pot, peut-être préciser un tout petit peu ce que c'est. Pas besoin d'appâter?
Non, en fait, on met des espèces d'amphores. Avant, c'était des amphores.
En terre cuite, ou en argile.
Voilà, maintenant, c'est des pots en plastique, des cylindres. On les met dans l'eau, dans des endroits, des grandes étendues de sable. Le poulpe, il n'a pas trop d'endroits où se cacher. Il se cache là-dedans. Il y a des moments où il ressort. Donc en fait, on peut même laisser les pots plusieurs jours et aller prélever que ce dont on a besoin. Donc là, en termes de sélectivité, de gâchis, d'impact, je pense qu'on peut pas faire mieux. Et on peut y aller sur le poulpe. C'est mieux que de manger un saumon ou un dos de cabillaud.
Donc en bref, on choisit français, pêché au pot et au casier uniquement. Et Dominique, votre mission, c'est de nous rapporter du poulpe de Normandie.
Oui. Non, mais vous parliez du mi-chemin dans le 14e, il y a des très beaux pots, justement, en démonstration, ouais. On peut les voir.
Et surtout, ce qu'oublie de dire Elvira, c'est qu'on choisit un poulpe cuisiné par Charles Gariec.
Bah, c'est la totale, mais vous allez sur Poisquet, on a fait une petite chaîne YouTube l'été dernier avec des vidéos à la première personne pour vous montrer. En fait, le poulpe, c'est hyper simple. Faut juste être patient et pas vouloir le bouillir trop fort. Là, vous voyez, celui-là, je l'ai un peu frotté au gros sel pour le nettoyer un petit peu ce matin. Je lui ai enlevé la tête et j'ai juste enlevé les viscères qu'il y avait dedans. Et je l'ai fait cuire. Le secret, c'est pas de gros bouillon. Donc, il faut le cuire à feu frémissant et l'oublier. Là, il a cuit 3 heures, celui-là, parce qu'il a pas été congelé avant, alors que la congélation aide pour casser les fibres et l'attendrir. Celui-là, j'ai pas eu le temps parce qu'on
n'a
pas eu le temps
d'avoir. Cornichons ou capres?
Il y a un peu de fèves, il y a un peu d'ail, il y a de l'olive.
Ah.
Voilà, de l'olive écrasée dans cette espèce de taco avec de la betterave shioga.
Ah, c'est ça, vous prenez
des lamelles de betterave
crue et vous en servez comme un taco. Exactement. Et oui, c'est ce qu'on a fait.
Voilà, et on a découvert ça ce matin, et vous avez aussi la petite terrine faite avec la tête et avec les arêtes du carrelet et les arêtes de la vieille.
Oh là là, on va déguster ça et on peut retrouver, c'est ça qui est formidable, Charles Gariec, vos recettes sur franceinter.fr à la page on va déguster. Mille merci pour vos lumières, mais aussi pour vos trucs en cuisine absolument surprenants. On retiendra notamment la cuisson des coques à l'eau chaude frémissante, enfin plus que frémissante, bouillante, cuisson seconde. C'est formidable, un vrai tour de magie. Merci Charles Gariec. Poiscaille.fr, il y a des auditeurs qui vont aller voir de quel bois vous vous chauffez, le circuit court de la mer. La semaine prochaine, on va déguster, fait sa rentrée, Chasselas de Moissac, Muscat de Hambourg. C'est la saison du raisin de table. Au menu, cure de raisin pour tout le monde. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.